Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
La panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club.
L'espoir, moi, objectivement, je ne l'ai jamais perdu.
L'unité de tout un groupe, tout un club, ça génère justement la chance, comme on dit.
Hello les amis, un léopard et un aigle dans notre studio aujourd'hui. Deux membres de la défense havraise qui s'installent autour de la table pour parler à Coupe d'Afrique des Nations. Le gardien du HAC, Lionel Mpassi, bonjour.
Bonjour.
Et le défenseur, parfois buteur, Fodé Doucouré, bienvenue, bonjour.
Bonjour.
Avec vous deux, on parlera de cette 35e CAN qui arrive très vite. Hein. Ce sera le 21 décembre au Maroc. Une très belle fête du foot en perspective. Un avant-goût de la prochaine Coupe du Monde. Pour vous interroger à mes côtés, les fidèles journalistes de ce podcast, j'ai nommé Mathieu Billot de Foot Normand. Salut.
Bonjour à tous.
Et Luc Gallet du Courrier Cauchois. Bonjour.
Salut tout le monde.
Et avant de s'envoler vers le Maroc, on revient évidemment avec vous sur la saison du HAC et notamment ce match de la 15e journée face au Paris FC. Score nul et vierge. Des occasions, il y en a eu, mais toujours pas de but. Cela fait quelques temps que ça dure. Et puis après 4 mois dans les vestiaires havrais, c'est aussi l'occasion de prendre la température des recrues que vous êtes. C'est parti pour le débrief 100% HAC, saison 2, épisode 7.
Je pense quand même que le sentiment qui se dégage, c'est de la frustration. On a réussi à se créer beaucoup d'occasions, mais voilà, encore une fois, on n'arrive pas à mettre ce but qui nous ferait du bien à tous. Voilà, mais c'était un concurrent direct qui ne prenne pas de points sur nous aussi, donc il y a du positif aussi sur ce match nul. Mais voilà, les mecs au vestiaire étaient vraiment frustrés de repartir qu'avec un seul point ce soir.
Les mots de Gauthier Duris en conférence de presse dimanche après ce petit point glané donc face au PFC. Score final 0-0 avant la 16e journée de Ligue 1. Le HAC est donc 15e au classement avec 3 points d'avance sur le barragiste Auxerre et 4 points sur Nantes et Metz qui sont en ce moment en position de relégable. Fodé, on va peut-être commencer par vous. Vous étiez sur le terrain en fin de match. On a entendu la Gauthier Duris parler de frustration. Comment ça va 48 heures après? Est-ce que c'est toujours frustrant, on va dire, ce résultat?
Ouais, bien sûr, on était à domicile, on voulait vraiment gagner ce match pour voilà, grimper un peu plus là-haut au niveau du classement et tout. Malheureusement pour nous, ça n'a pas marché, c'est pas comme on voulait, mais on finit avec un point, ce qui est positif, donc on va continuer à aller chercher des points.
On a entendu le coach qui retenait plus le positif que le négatif aussi en conférence de presse. C'est ce qu'il vous a dit aussi dans les vestiaires, d'aller voilà, positiver.
Ah, bien sûr, on reste toujours positif. C'était pas une défaite, c'était un match nul. Donc un point, c'est mieux que zéro. Donc voilà, il y a un prochain match le dimanche à Lyon. On va tout faire pour prendre un point.
Lionel, vous étiez, sur le banc. Est-ce que c'est rageant, frustrant aussi ou pas ce nul?
Bah ouais, c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir prendre les 3 points. D'autant plus quand on est sur le banc parce qu'on ne peut pas forcément aider l'équipe sur le terrain. Mais bon, après, comme le coach l'a dit, il faut voir le côté positif des choses, continuer à bosser pour essayer d'inverser cette spirale négative offensivement qu'on est en train de traverser en ce moment.
Ouais, on précise bien offensivement parce que la spirale ou la dynamique est, dans l'ensemble, elle est pas négative. Dans le jeu, c'est plutôt bon, voire même très bon. Vous perdez peu, y compris des fois contre les gros. Il manque juste ces petits buts, ces fameux petits buts. Comment on fait pour retrouver le chemin des filets? Fodé, vous étiez l'un des buteurs, un des buteurs surprises du début de saison du HAC avec 2 buts lors des 3 premières journées. Comment on peut retrouver le chemin des filets? Parce qu'il y a des occasions, il y en a. Et je me souviens, je crois, quand vous êtes rentré, un moment, vous faites un centre à la premier poteau, que le petit jeune Nomoubougou est pas loin de reprendre. Comment on fait pour retrouver ce chemin des filets?
Ouais, c'est en travaillant à l'entraînement, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais voilà, on va continuer à croire à ce qu'on fait à l'entraînement et j'espère que ça va nous sourire un jour. Parce que les occasions, on a beaucoup d'occasions. C'est juste qu'il faut être vraiment chirurgical à mettre au fond des filets.
C'est juste une question de réussite, parce qu'en début de saison, même s'il n'y en avait pas 50 non plus de buts, il y en avait quelques-uns, je faisais référence au but que vous avez inscrit. Est-ce qu'il y avait quoi, un peu plus d'insouciance ou c'est juste un peu plus de réussite et ça rentrait en début de saison et là ça rentre un petit peu moins?
Ouais, c'est ça, ça rentre un peu moins maintenant. Mais voilà, c'est comme en début de saison, on a eu beaucoup d'occasions, on a eu la chance de marquer beaucoup de buts en début de saison. Il faut continuer à faire ce qu'on fait d'habitude, à essayer de tenter. Et même le match passé, on a eu deux poteaux, si je ne me trompe pas, ou trois poteaux. Donc voilà, on a des occasions maintenant, c'est avoir la chance.
La réussite aussi qui vous fuit un petit peu, voilà, justement, tu parlais des poteaux. Sur les cinq derniers matchs, je crois que vous marquez un seul but, si je ne me trompe pas. Est-ce que, mine de rien, ce manque de réussite, il vous fait peut-être un petit peu, j'allais dire pas douter, mais gamberger peut-être sur ces derniers matchs?
C'est un peu frustrant parce que dans le match, t'as cinq poteaux, tu marques pas. Forcément, t'es frustrant. Mais voilà, comme j'ai dit, on va continuer à bosser, à l'entraînement, on va continuer à chercher des buts. Et j'espère vraiment que ça va nous sourire dimanche à Lyon.
Lionel, est-ce que c'est peut-être de la faute des entraînements à l'entraînement? Vous êtes peut-être trop bon et vos coéquipiers ont perdu la recette de marquer en match?
Non, parce que je vous cache pas qu'à l'entraînement, les séances, le contenu des séances, franchement, c'est... Si vous venez sur une séance d'entraînement, vous vous dites waouh. Mais c'est juste que en ce moment, il y a ce petit truc qu'on n'a pas et ce petit brin de réussite qu'il faut qu'on retrouve. On l'a vu sur la préparation, on avait marqué qu'un seul but. Et après, on a fait une série de matchs où on faisait que marquer. Il faut juste qu'on retrouve ça, il faut qu'on persévère dans le travail et c'est sûr que ça va revenir.
Est-ce que le gardien que vous êtes peut aider ses coéquipiers offensifs à l'entraînement peut-être en donnant des conseils, des petits tips entre guillemets sur les attitudes des gardiens, forcément vous qui maîtrisez le poste à la perfection?
Bah, j'essaye de les pousser toujours au maximum. Moi à l'entraînement, j'essaye d'être en défi, en challenge contre tous les joueurs, surtout les joueurs offensifs. On essaye de se mettre des petits challenges et je me rappelle que l'entraînement de veille de match, Ali Saint-Martin m'a mis 3 buts et je pense qu'il lui manque juste ce petit but. Comme tout attaquant, c'est une fois qu'il aura ce premier but, la confiance viendra et ce sera un petit déclic pour lui.
Ouais, c'est cette fameuse confiance, ça reste quand même le carburant du sportif de haut niveau.
Ah, c'est le maître mot du sportif de haut niveau. Hein. Un joueur en confiance, il peut être super super fort et un joueur un peu moins en confiance, ça se sent, on a des petites hésitations de temps en temps, mais faut persévérer.
À l'inverse, on parle de l'aspect offensif, mais défensivement, mine de rien aussi, c'est un nouveau match où vous encaissez pas de but. Ça aussi, c'est quand même plus ou moins une source, on peut se rassurer en tout cas en tant que joueur. J'imagine toi, Faudé, sur ce dernier match notamment.
Ouais, bien sûr, ça fait beaucoup de matchs. Voilà, on encaisse moins. Comme Lionel l'a dit, il faut juste offensivement, faut travailler plus encore. Et ça va arriver, je suis sûr que ça va arriver.
Mais Faudé, t'es encore défenseur, Faudé? Moi je pensais que t'étais devenu attaquant. Je rate les compos d'équipe et tout.
Il est hybride.
Et c'est ça.
Moi je suis partout.
Un petit mot, vous disiez dimanche donc déplacement à Lyon. Est-ce que paradoxalement c'est peut-être plus facile de préparer ce match qui est face quand même à une équipe du top 5, une équipe européenne, que le précédent où on se dit qu'il y avait peut-être beaucoup d'enjeux comptables, en tout cas davantage, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est finalement, est-ce qu'on est plus libéré en préparant un OL HAC qu'un HAC PFC?
Non, je pense que toutes les préparations sont identiques. On prend les adversaires, on prend match après match déjà. Et le coach travaille énormément sur ça, en vidéo, sur les préparations de match. Et il n'y a pas de différence entre les adversaires. On bosse tout le temps de la même manière. Et de toute façon, on bosse pour être prêt, pour pouvoir remporter les matchs tous les week-ends. Quoi.
Surtout que la dynamique lyonnaise récente, elle n'est pas vraiment meilleure que celle du HAC, peut-être même moins bonne, à l'exception peut-être des matchs de Coupe d'Europe. D'ailleurs, ils seront sur le pont jeudi. Mais s'ils sont dans le top 5, c'est grâce aux résultats qu'ils ont fait lors des deux premiers matchs de compétition. Là, sur le dernier mois, c'est quand même plus compliqué. Donc je pense pas qu'il y a forcément effectivement d'approche différente. Là, il y a de l'extérieur en tout cas, moi c'est ce que je me dis, il y a un coup à faire dimanche.
Si on est sur la lignée de ce qu'on fait depuis le début de la saison, oui, c'est sûr qu'il y aura un coup à faire si on arrive à mettre les ingrédients qu'on a réussi à mettre depuis le début de la saison sur nos matchs. Et après, on sait que Lyon, c'est un bel adversaire, mais on aura nos armes à faire valoir.
Puis il faut offrir un petit cadeau de Noël avant vos départs respectifs. On y viendra plus tard pour les sélections. Un petit 3 points au pied du sapin avant de partir rejoindre le Mali, ce serait parfait.
Bien sûr, ce serait parfait. On va tout faire. Voilà, on va, comme a dit Lionel, on va aller avec nos armes. À ne rien lâcher, à continuer à bosser, quoi qu'il arrive. au vu des résultats. Donc on va continuer vraiment vraiment à pousser et j'espère que dimanche on aura les 3 points.
Je reste convaincu que c'est facile une première fois quand on n'est pas à son poste ou parce qu'on se dit bah quoi qu'il arrive c'est du bonus, mais de confirmer c'est encore autre chose. Lui aussi, il a fait preuve de beaucoup de mental pour rester très focus sur ce qu'attend le groupe. Et en fait, il est récompensé justement grâce au fait que le groupe soit sa priorité. Et il grappille du temps de jeu, et il marque des buts et il marque des points. Donc je suis très content.
Dans le débrief 100% AC, c'était coach Digard le 31 août dernier après la victoire 3-1 face à Nice. Votre deuxième but, Fodédou Kouré. Vous retrouvez-vous la Ligue 1 que vous aviez découverte à Reims il y a 5 ans déjà, 2020-2021. Et vous êtes passé entre-temps en National et en Ligue 2 avec le Red Star. Aujourd'hui, au Havre, vous avez souvent été titulaire. Vous avez le 10e temps de jeu chez les joueurs de champ. Ça, c'est les stats de Mathieu Bigard.
Sans market pour être totalement franc, mais normalement elles sont fiables.
Est-ce que vous imaginez voilà, que l'arrivée au Havre et que l'intégration se passe finalement aussi bien, aussi vite aussi, dans un nouveau club, une nouvelle équipe, avec un nouveau coach?
Ouais, bien sûr, comme j'ai toujours dit, dès mon arrivée, je connaissais quelques joueurs. J'avais déjà joué contre Lionel en Ligue 2. Donc voilà, on se connaissait un peu, même si on ne se parlait pas trop. Mais dès mon arrivée, j'ai senti une équipe vraiment, un groupe collectif qui avait quelque chose, collectivement et tout. Donc moi aussi, je me suis vite mis au service du collectif et vraiment, ils m'ont bien accueilli. Dès que je suis arrivé, j'ai senti que c'était une bonne famille, qu'on avait un truc en commun. C'est que, la devise du club, ne rien lâcher. Comme au Red Star, c'était pareil. Et l'année dernière aussi, la saison dernière, j'ai regardé les derniers matchs. Vous avez vu, ils ont relâché jusqu'au dernier match. Ils ont eu le maintien. Et donc, dès mon arrivée, je me voyais dans cette équipe. Et le coach m'a fait confiance, la direction, les joueurs aussi, ils m'ont ouvert la porte. Donc, j'ai saisi cette chance à continuer à progresser, à apporter mon soutien.
Est-ce que tu t'attendais justement à avoir aussi rapidement autant de temps de jeu, autant de responsabilités et en plus à des postes où ça variait un petit peu sur le flanc droit en tout cas? Est-ce que tu t'attendais à avoir autant de confiance de la part du coach notamment?
Ouais, bien sûr, parce que avant d'arriver, on a déjà parlé. Moi je suis arrivé en tant que doublure et comme j'ai dit, que je commence le match ou pas, moi je suis là pour apporter mon soutien à l'équipe, à tout donner, tout ce que j'ai pour cette équipe, je ferai tout pour cette équipe.
Est-ce que vous avez été agréablement surpris d'être contacté par un club de Ligue 1 où ça faisait un peu partie, compte tenu des 3 saisons pleines sur lesquelles vous restiez, je crois 2 saisons pleines en National, 1 en Ligue 2, ça faisait partie d'une évolution que vous estimiez normale de retrouver la Ligue 1 ou agréablement surpris du coup?
Non, j'étais pas surpris parce que je savais que je travaillais pendant 3 saisons au Red Star, donc vous-même vous savez, j'étais à Reims, j'avais pas beaucoup de temps de jeu. Et je suis redescendu en National pour avoir du temps de jeu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai connu la Ligue 2. Et j'attendais ce moment, en fait. J'attendais ce moment de retourner en Ligue 1, de montrer mes qualités, mes valeurs aussi. Donc, le HAC m'a donné cette chance de me faire voir par d'autres équipes ou la sélection mondialement, on va dire. Donc, aujourd'hui, ça se passe bien. Donc, je continue à progresser dans ma petite carrière de jeune.
Et vous, Lionel, qu'est-ce qui vous a séduit dans le HAC? Parce que vous étiez un gardien, on y reviendra après, mais vous étiez un gardien établi en Ligue 2. Hein. Je crois que vous jouiez depuis fin décembre 2020, vous étiez titulaire. Là, du coup, vous arrivez, c'est notre mission qui vous est confiée. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce challenge à Havre?
Ce qui m'a plu dans ce challenge à Havre, c'est d'abord le club. J'ai souvent joué contre le Havre quand j'étais à Rodez. Vous l'avez évoqué là en 2020, le premier match que je joue avec Rodez, c'était ici au Stade Océane. On fait match nul et c'est toujours un club que j'ai admiré. Du coup, le moment où j'ai été approché, j'ai pas hésité une seule seconde et j'ai foncé.
D'accord, parce qu'en plus ça s'est fait relativement rapidement à l'échelle, je veux dire, d'un mercato. C'était pas fin août dans les derniers instants. Là, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez le statut numéro 2, vous avez quand même beaucoup joué. C'était pas quelque chose qui est rentré en ligne de compte, même si peut-être on réfléchit pas comme ça quand on est joueur de haut niveau et on se dit on s'engage dans un club et pas avec un statut.
Comme vous l'avez dit, c'était établi. Je suis arrivé, comme Faudé l'a dit, doublure moi aussi à mon poste. Mais quand on est sportif de haut niveau, de toute façon, même quand on arrive dans un certain statut, on se bat tous les jours pour essayer d'inverser la tendance et pour montrer de quoi on est capable et se tenir prêt au cas où on fait appel à nous.
Et du coup, ça vous plaît depuis de la reprise d'entraînement, c'était quoi, fin juin peut-être, début
ouais,
juillet.
Ouais, enfin, je suis arrivé début juillet moi, parce que j'avais repris avec Rodez.
Ah oui, c'est
et
ça.
J'ai fait la transition, je suis arrivé ici début juillet et ouais, franchement, je suis comme à la maison. On dirait que ça fait plusieurs années que je suis là et comme Faudé l'a dit, on est arrivé dans un groupe avec pas mal de valeurs. Je pense que ce qui s'est passé l'année dernière, ça a renforcé un petit peu les liens dans le groupe et l'intégration s'est passée naturellement et très bien. Je pense que tous les nouveaux se sentent bien ici.
Quand on voit l'exemple de l'an dernier où en cours de saison, il y a eu un changement de gardien avec Arthur Desmas et ensuite Mathieu Gorgelin, est-ce que dans la réflexion de signer au Axe, c'est aussi un exemple qui toi t'a incité à signer aussi pour le Axe, de voir qu'il y avait un turnover possible en tout cas au niveau des gardiens?
Pas par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière entre Mathieu et Arthur, par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir depuis que je suis dans le monde professionnel. J'ai connu ce type de situation à Rodez, où je suis arrivé en tant que numéro 2 et j'ai dû patienter X nombre d'années avant de pouvoir jouer. Mais moi, ouais, j'ai cette ligne directrice de me dire, c'est comme ça, bats-toi pour essayer d'avoir ta place et une fois qu'on te donne l'opportunité de pouvoir jouer, faut la saisir.
Est-ce que forcément, on imagine que ça a pesé le fait de retrouver Maury Diot, donc vous avez côtoyé sur les derniers mois à Rodez et vous étiez au centre de formation du PSG ensemble et également j'imagine Nico Douchez qui était gardien encore en activité pendant vos jeunes années à Paris et lui était dans le groupe pro. Là maintenant vous formez un trio qui semble assez proche.
Ouais, trio Titi on va dire. Mais non, oui, c'est sûr que c'est mieux d'arriver dans un environnement qu'on connaît, c'est plus confortable que d'être dans l'inconnu. Nico, je l'ai côtoyé un petit peu à Paris quand il jouait. J'ai fait quelques séances d'entraînement avec lui. Maury, on se connaît depuis tout jeune et on a joué ensemble depuis tout jeune. C'est la troisième fois qu'on se retrouve. Et oui, c'est plus facile de bosser dans ces conditions-là.
Mais ça n'a pas été, c'est important, mais ça n'a pas été déterminant, si je comprends bien. Vous auriez pu signer au HAC. Même si Maury n'était pas là, même si Nico n'était pas là.
Oui, je pense que ça rajoute un plus, mais quand le hack t'appelle, tu fonces même si Nico et Maury sont pas là, quoi.
Ça se chambre un peu dans les vestiaires entre les deux gardiens qui ont été formés ensemble ou pas, Faudé. Est-ce que ça va? Est-ce que ça se voit, quoi, qu'ils se connaissent bien et qui...
Ouais, bien sûr, ça se voit qu'ils se connaissent bien, comme Lionel il a dit. Ils ont joué ensemble pas mal d'années ensemble, donc ils sont tout le temps ensemble. Même en déplacement, ils sont tout le temps à côté, voilà. Il y a une bonne connexion.
Moi, je pense que ça doit chambrer un petit peu, mais sur un autre thème qu'on va aborder prochainement.
Ouais, c'est plus
parce que je crois savoir qu'il y a un petit duel, pendant la trêve de Noël qui n'en sera pas une pour vous, pendant la coupure hivernale.
La transition est très bonne, mais juste une petite question pour Faudé, puisque je lisais sur le site du HAC que vous êtes aussi quelqu'un qui aime bien, enfin voilà, qui est positif dans la vie, qui aime bien danser, chanter, etc. Est-ce que c'est le cas, quand il y a des bons résultats dans les vestiaires et tout, est-ce que vous êtes un ambianceur ou pas?
Ah, bien sûr, faut mettre de l'ambiance en dehors du terrain, faut s'épanouir, faut s'amuser, mais une fois rentré sur le terrain, faut montrer une autre image. Donc voilà, c'est ce que j'essaie d'apporter à l'équipe, au groupe. Et je suis pas le seul, mais parce qu'il y a Lionel aussi, c'est un Congolais. Les Congolais aussi, ils aiment bien chanter, danser. Donc je suis venu trouver des mecs fous aussi. Donc voilà, je me suis directement mis sur le terrain.
Voilà, on est déjà au Maroc dans le débrief 100% hack. Ouais. Alors j'ai cherché d'ailleurs l'hymne officiel de la CAN, mais en fait en réalité il y a plusieurs hymnes officiels. Donc pour l'instant voilà, on a pris le petit jingle de présentation de la mascotte qui sera le lion Assad. Donc cette Coupe d'Afrique des Nations, on va parler évidemment de vos carrières internationales messieurs. La CAN ce sera du 21 décembre au 18 janvier, 24 équipes en compétition dont vos nations respectives, donc la République démocratique du Congo, j'ai y arrivé, et le Mali. On va peut-être commencer par les aigles, justement, car Faudé, votre équipe sera dans le groupe A, celui du pays hôte, le Maroc, c'est l'un des grands favoris, et on imagine, justement, on parlait d'un peu des vestiaires et du fait de se charrier ou pas. Est-ce que vous pensez déjà à ce match contre le Maroc, et est-ce que vous en parlez avec Yacine Keshta, qui lui-même est franco-marocain, ou avec, pourquoi pas, Younes Namli aussi, qui lui aussi a des origines marocaines.
Ouais, bien sûr. Voilà, on s'échange vraiment, vraiment beaucoup, parce que surtout Yacine, parce que voilà, c'est marocain et moi je suis un malien, donc il sait qu'on va être dans le même pool, donc voilà, il me dit qu'ils vont nous taper. Moi, je dis non, nous sommes des aigles, donc on va tout faire, même si ils sont les favoris parce que ça va être chez eux. Donc voilà, on va aller aussi avec nos armes, donc on va tout faire pour se qualifier pour les phases finales.
Qu'est-ce qu'elle ambitionne justement votre sélection, Faudé? Le Mali, ça reste un grand pays de foot, un grand pays de foot africain qui malheureusement n'a jamais été au bout de la CAN. Là, je pense que c'est, il y a des grosses nations, mais ça reste ouvert avec des huitièmes de finale. Où c'est que vous voyez votre sélection aller?
Je crois en finale à remporter la CAN. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va essayer de faire quand même. En tout cas, on va aller pour pas pour sortir au premier tour, on va aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est mon ambition et l'ambition de tout un peuple qui est derrière nous. Donc on va aller au Maroc pour aller jusqu'en finale et pourquoi pas remporter cette CAN, cette première CAN pour le peuple, pour toute la famille.
Donc on envoie un petit message à Mathieu Bonnemer, vous êtes indispo jusqu'au 18 du coup. C'est voilà, faut faire sans moi jusqu'au 18. J'ai des trucs de prévu. Je serai en finale, c'est pas de souci. J'ai pas regardé d'ailleurs, j'ai pas analysé le tableau. Est-ce que c'est possible une confrontation entre le Mali et le Congo genre 8e en quart? Non, vous avez peut-être pas regardé non plus,
ouais,
aussi loin.
Ouais, on a pas regardé, j'ai pas regardé le tableau. Je sais pas de quel côté on est.
Ouais. Moi non plus.
Parce qu'en plus, ça dépend, comme il y a des troisièmes de poule qui sont potentiellement, qui vont être qualifiés pour les huitièmes de finale. Ça peut croiser un peu dans tous les sens. Le Congo aussi, j'imagine, va être ambitieux dans cette CAN, compte tenu de la dynamique récente.
Bah ouais, comme vous venez de le dire, compte tenu de la dynamique récente, on va essayer de surfer sur cette dynamique, prendre match après match. Après, on reste sur une demi-finale de CAN. Bien sûr qu'on aimerait aller un peu plus loin que la demi-finale, mais je pense que ça passera. On l'a vu sur la dernière CAN, on est sorti des poules avec 3 matchs nuls. On sait que c'est compliqué de sortir des poules. Et du coup, on va prendre match après match et essayer de sortir des poules. Après, on ira le plus loin possible.
Alors, pour rappel, du coup, vous êtes dans le groupe D, avec le Bénin, le Botswana et le Sénégal. J'imagine que aussi dans le vestiaire, ça doit pas mal évoquer déjà cette future affiche face au Sénégal, non?
Non, on l'évoque pas trop parce que il y a eu un Congo-Sénégal là pour les qualifications pour la Coupe du Monde qui s'est mal terminé du coup pour nous. On est rentré très déçus et on n'a pas besoin de se parler avec Maury, on sait ce qu'il y a. Et non, franchement, on n'en parle pas trop. Après, on sait que ça sera un gros match. En plus, c'est le deuxième match de poule.
Ouais, le 27.
Ouais. C'est le 27. Et du coup, nous, on aura à cœur de prendre notre revanche sur ce qui s'est passé par rapport au match de la Coupe du Monde.
Ouais, vous vous quittez plus du coup.
Bon, on se quitte pas, c'est abusé. Hein.
Ce groupe, justement, comment tu le vois un petit peu, ce groupe D?
Bah, il est pas simple. Comme le groupe qu'on avait un peu sur la dernière CAN, où on avait le Maroc, là on a le Sénégal, et on les joue pareil le deuxième match comme on avait joué le Maroc. Et faudra faire attention aussi au Bénin et au Botswana, qui sont des... De toute façon, tout le monde progresse en Afrique. Maintenant, il faut se méfier de tout le monde. Tout le monde travaille très bien. Et faudra bien entamer la compétition parce que ça conditionne la suite.
Est-ce que vous avez des souvenirs de CAN précédents? Alors, soit en tant que joueur, par exemple, pour vous, Lunel, ou même en tant que supporter, peut-être même quand vous étiez plus jeune et que vous regardiez la compétition, peut-être en famille ou avec les potes?
Ouais, moi j'ai beaucoup de souvenirs. C'était ma première CAN
la précédente.
Et j'avais le souvenir déjà du premier match où il y avait beaucoup d'émotions parce que c'est une grande compétition. Moi je l'ai toujours vécu à la télé, mais quand on est à l'intérieur, c'est d'autant plus impressionnant. Et les souvenirs de quand je supportais le Congo à la CAN à la télé, ouais.
Faudé, est-ce qu'il y a quelques souvenirs aussi de supporters du Mali, quand vous étiez plus jeune, même si vous êtes déjà, vous êtes toujours
très jeune.
Mais
que 24 ans.
C'est ça.
C'est ça.
Donc il n'y a pas si longtemps que ça, en fait.
Bien sûr, la dernière CAN, ça, c'est dans un coin de ma tête parce que, voilà, on est sorti contre la Côte d'Ivoire, malheureusement pour nous.
Le vainqueur.
Voilà.
Pays hôte et vainqueur.
Ouais, bien sûr.
Perdu contre la Côte d'Ivoire, du coup.
Ouais, bien sûr, c'est ça, en fait. Et moi, c'est ça qui me motive aujourd'hui à vraiment, j'espère vraiment que je participerai à cette CAN, à faire tout mon possible pour donner de la joie au peuple malien, pour justement les faire oublier un peu de ce qui s'est passé à la CAN précédente. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire.
Est-ce qu'il y a une forme de pression aussi quand on participe à ce type de compétition et de se dire, vous disiez, voilà, c'est porter aussi le peuple et vous savez que vous êtes regardé, les sélections sont, voilà, il y a un côté un peu, forcément, c'est de la pression, quoi.
Ouais, bien sûr, il y a la pression, mais c'est une pression positive, parce que voilà, tout un peuple est derrière vous, donc c'est une grande, grande responsabilité, surtout pour nous au Mali. Voilà, Lionel, eux, ils ont des CAN, nous on n'a pas encore remporté des CAN, donc nous on va essayer de tout faire pour donner cette première CAN au Mali.
Bon, elle date un peu quand même, la dernière CAN du Congo. Je pense que vous diriez pas non à rajouter une ligne au palmarès.
Ah, ouais, on dirait pas non à rajouter une petite étoile au palmarès.
Hein, c'est 68 et 74, je crois. C'est ça, ouais. Ça, les victoires avec participation aussi au mondial
ouais.
En 74.
En 74, ouais. Voilà, du coup, il y a ça.
Grande époque, du coup.
Du Zaïre.
À l'époque, on appelait le Zaïre, du coup. C'était devenu la République démocratique du Congo. On faisait référence à la Coupe du Monde. C'est aussi, j'allais dire, l'autre objectif, mais c'est pas dans le sens après, mais un grand objectif pour le Congo, puisque, du coup, vous êtes qualifié pour les barrages intercontinentaux.
Ah, c'est ça, ouais.
Ouais. Parce que vous êtes sorti vainqueur des barrages africains. C'est un parcours du combattant quand même.
Ouais,
la FIFA a beau mettre 48 participants, ça reste un parcours du combattant pour y aller.
Ouais, c'est clair que c'est un parcours du combattant. Bah, on était justement dans le groupe du Sénégal où on était premier dans ce groupe jusqu'à la confrontation directe contre eux. Ils nous sont passés devant sur le gong et on savait que pour se qualifier, de toute façon, il allait falloir passer par ce parcours-là. On a réussi à gagner le tournoi au Maroc contre le Cameroun et le Nigeria. On s'est offert une finale intercontinentale pour pouvoir y aller. Et je pense que la CAN, c'est une bonne préparation pour ce moment-là. Et ouais, on a à cœur de marquer l'histoire et d'obtenir cette qualification parce que le peuple l'attend depuis un certain nombre d'années. On aimerait bien être cette génération, pardon, qui qualifie le pays pour ça.
Et donc vous affronterez le vainqueur de Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, parce qu'en fait il y a certains pays qui ont des demi-finales en fonction de leur classement FIFA.
C'est ça.
Ouais. Vous êtes directement entre guillemets qualifié pour la finale, et donc ça sera le vainqueur de Nouvelle-Calédonie, Jamaïque. Et je crois que ça se déroulera sur terrain neutre. J'ai vu que revoir ça au Mexique.
C'est au Mexique, ouais.
Ouais, voilà. Donc ouais. Ça rajoute encore un petit degré de complexité, parce que du coup il y a un déplacement fin mars supplémentaire à l'autre bout du monde. Forcément, s'il y a qualif. Ça passera plus facilement.
Oh, ça peut. Le voyage passera plus facilement s'il y a qualif, c'est sûr et certain, mais ouais, faudra s'acclimater.
Ouais. Ouais. Moi, je voulais vous demander un petit mot. C'est vrai que la particularité de la CAN, c'est que ça se déroule souvent en période hivernale, même si là, normalement, ça devait avoir lieu l'été dernier. Mais bon, comme la FIFA rajoute des compétitions à tour de bras, du coup, des organisateurs de la CAN ont été obligés de décaler ça. C'est facile de switcher quand même. On rappelle que dimanche, du coup, vous serez à Lyon pour le match. J'imagine que derrière, c'est une logistique pour prendre l'avion, rejoindre la sélection, peut-être même dès lundi, vos sélections respectives. Et du coup, dès le week-end prochain, je crois qu'il y a un des deux qui joue lundi, je crois, dès le lundi d'après. Je crois que c'est vous, Faudé, je crois que vous jouez dès le lundi, le deuxième jour de compétition de la CAN.
Oui.
Donc très rapidement. Est-ce qu'on arrive à... Bon, forcément, la compétition est belle, mais est-ce qu'on arrive à switcher rapidement? On est un week-end en compétition Ligue 1, une semaine après, on fait match avec son pays.
Ouais, c'est pas facile, mais voilà, comme on est des joueurs professionnels, donc on s'adapte à la situation. Donc, une fois fini la Ligue 1, on va vite switcher pour la CAN. Donc, il faut être vraiment prêt mentalement, physiquement, à 100%.
Ouais, je pense que Foda a raison. Quand on est sportif de haut niveau, faut être capable de pouvoir switcher à tout moment. Et c'est l'histoire de notre vie. Et franchement, il y a toujours, on a toujours switché d'une semaine à l'autre, d'un match à un autre. Bah, comme là en championnat, il y a la frustration du match précédent. Bah, on doit switcher, passer sur le prochain. Mais ouais, c'est notre job, quoi.
D'accord. Donc ça vous préoccupe pas plus que ça, quoi.
Non. On est concentré.
Du moment que l'avion est à l'heure, tout va bien.
Bah, du moment qu'on est performant contre Lyon et que après, ouais.
et après l'avion est à l'heure. Tout est bon. Ouais. Et en plus, c'est sympa. On a un été indien en Normandie. Donc, je pense pas qu'il, peut-être pas aussi chaud qu'au Maroc, mais on vous prépare doucement quand même aux températures marocaines.
Ouais, c'est pas mal en ce moment.
C'est pas mal.
Alors, je vais revenir sur un épisode quand même qu'a vécu Lionel il y a pas si longtemps que ça. Ce match contre le Nigeria, la séance de tir au but où vous êtes d'ailleurs remplacé juste avant qu'elle ait lieu. Mais j'imagine toutes les émotions que vous avez vécues avec votre sélection à ce moment-là. Racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu un petit peu tout ce match-là. Est-ce qu'il n'y a pas une pointe de frustration quand même d'avoir été remplacé ou c'était attendu ce changement?
Non, il n'y a pas de frustration du tout parce que c'est comme ça que ça devait se passer. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ouais, il y a pas mal de pression dans ce genre de match parce que on sait qu'on joue pas que pour nous, on joue pour tout un pays, pour toute une nation. Mais ouais, c'était des émotions incroyables tout au long du match parce que c'est un match où on est mené très vite. On fait face à une belle équipe du Nigeria, on arrive à reprendre le dessus sur eux, on remarque. Et plus le match avance, plus on se dit qu'on va aller vers la séance des pénaltys. Et on avait pas mal bossé les tirs au but durant ce stage. Et j'avais fait part au coach d'une petite idée de mettre Timothée Fayoulou, du coup, qui est rentré. Parce qu'il était performant dans ce domaine-là. Et je pensais qu'il ferait plus l'affaire que moi sur cette séance. Et j'en ai fait part. Il a pris la décision de garder un changement. Et il l'a fait. Et Dieu merci, ça a marché pour nous.
Ouais. Ouais, c'est un sacré coup de sacré coup de poker. Il y avait les Pays-Bas qui avaient fait ça il y a quelques années.
Ouais, il y a des équipes qui l'ont déjà fait, ouais, souvent. Mais ouais, ça s'est bien passé. Franchement,
tant mieux pour le combo,
ouais,
du coup.
Tant mieux pour nous. Ouais.
Et il y a une grande fête ensuite qui a suivi. C'est ça, vous avez été convié à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce trajet un peu fou entre l'aéroport et le stade? J'ai cru comprendre que ça avait été la grande fiesta, quoi.
Bah, pas une grande fête, mais une grande. En fait, c'était juste pour qu'on voit la joie du peuple. Le président nous a convoqué du coup au Congo, nous a reçus au Congo et tout était improvisé parce qu'on était dans le vestiaire et il nous a dit ouais, demain vous venez au Congo. Du coup, on est reparti le lendemain à 9h et on a atterri à Kinshasa et on a vu la foule. En fait, on a vu comment les gens étaient heureux, le plaisir qu'on a pu leur procurer en faisant deux matchs et deux victoires et
toute cette ferveur un petit peu du pays, hein.
Ah,
c'est
mais
ça.
Là, on a tout senti et franchement, si on se qualifie, si on a la chance de pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde, on sait qu'on redonnera du baume au cœur à tout un pays, quoi.
Il y avait du monde sur le bord des routes.
Ah, mais on a fait un trajet de 10 km en 1h30 avec des gens qui nous suivaient à pied du bus au stade. Mais ouais, c'était impressionnant.
Faudé, ça donne envie de vivre les mêmes émotions avec le Mali?
Ouais, bien sûr, ça donne vraiment envie parce que j'ai regardé les stories à Lionel. Moi-même, j'étais vraiment content pour lui. Dès que le match est fini, je lui ai envoyé un message de félicitations. Et donc, quand tu joues pour ton pays, forcément, ça a un impact sur toi émotionnellement, surtout quand tu rentres en famille, voir la fierté de la famille. Donc, forcément, ça a un plus.
Ben, on a fait le tour, je pense.
On attend les matchs.
On attend les matchs. On va
regarder ça tranquillement de Normandie, mais on va regarder ça avec attention.
Oui, c'est ça. On n'a pas encore d'envoyés spéciaux, malheureusement. Quoi qu'un petit épisode du débrief en direct. Voilà,
ça se fait, le Maroc, c'est pas très loin. Hein.
Franchement, dis pas non, si on a l'occasion.
On va poser la question
Ça peut se faire.
On va faire un petit tour d'horizon habituel sur les résultats des autres formations du HAC. La confrontation face au Paris FC qui n'a pas non plus réussi aux filles. Alors, même si, comparé, raison n'est pas raison, évidemment, puisque l'écurie féminine du club parisien, c'est évidemment un gros calibre.
Oui. Défaite. Le HAC avait volontairement laissé aussi quelques joueuses au repos, j'ai envie de dire. C'était pas vraiment ça, mais il y avait quelques joueuses qui étaient sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune dans le match contre Lens, qui sera très important pour prendre ses distances avec la zone rouge.
Donc défaite 3-0. 3-0, ouais. Donc pour les filles qui restent quand même 8e d'Arkema Première Ligue avant la réception de l'OL. Ce sera samedi 13 décembre à 17h au stade Océane. Chez les jeunes, la réserve bat sans surprise la Lanterne Rouge Mondeville, 4-1. Les Havrais qui sont 3e en U19, victoire 2-1 du Havre face à Amiens. Les Ciel et Marines sont 7e. Un match nul 1 partout pour les U17, ça c'était sur la pelouse de Montrouge, sont 6e. Et puis chez les U19 féminines, pas d'exploit. Défaite 6-2 face au leader qui est encore une fois le Paris FC. Décidément, il y avait redondance un peu des adversaires ce week-end. Les filles qui n'ont pas pu du coup se qualifier pour la phase élite. Un grand merci à vous deux, messieurs, d'avoir participé à ce débrief. On vous souhaite une très belle Coupe d'Afrique des Nations, quoi qu'il arrive, que ce soit sur le terrain ou en tant que supporter pour les différents joueurs africains ou franco-africains du HAC. On verra qui succède à la Côte d'Ivoire, donc au sommet du foot africain. Ça, ce sera le 18 janvier, la finale de cette CAN. Et d'ici là, évidemment, focus sur le HAC dimanche prochain, 16e journée de Ligue 1 à Lyon. Et puis la Coupe de France à domicile, 32e de finale, ce sera face à Amiens. Et ce sera le dimanche 21 décembre, juste avant les fêtes. Merci à Luc Guélène, courrier cochon. Merci d'avoir été là. L'actu du foot régional, c'était évidemment tous les vendredis chez votre marchand de journaux. Et puis merci à Mathieu Billot de Foot Normand qui suivra lui aussi évidemment avec attention justement la Coupe de France.
Mais oui,
entre autres.
J'étais chez Luc la dernière fois, on était à Ifto. Bon, j'ai pas porté bonheur à Ifto, malheureusement pour Luc.
Pas cette fois.
Mais voilà, mais écoute, une prochaine fois peut-être.
Et votre podcast à retrouver sur les plateformes Deezer, Spotify, sur tendanceouest.com et chez nos partenaires. On se retrouvera pour un dernier débrief avant la trêve avec peut-être un dirigeant, on verra. Fin de partie et à très bientôt !